Radio Kapi. Oh, Kapi.
Journée internationale des casques bleus célébrée ce dimanche 29 mai à Goma, dans le Nord Kivu. C'était l'occasion pour le gouvernement congolais et la MONUSCO de rendre hommage à plus d'un million de casques bleus qui travaillent pour le rétablissement de la paix dans le monde. Bientôt, l'aéroport de Bunia en Ituri fera peau neuve. C'est grâce au soutien du gouvernement central qui vient de disponibiliser des fonds pour ce toilettage. Parmi les travaux prévus, l'allongement de l'actuelle piste d'atterrissage de 650 mètres. La RDC est en épidémie de poliomyélite depuis l'année 2017. Depuis l'année 2021, le pays a notifié 76 cas de polio, dont 61 cas dans la province du Maniema. L'invité de ce journal, c'est le coordonnateur principal du programme élargi de vaccination PEV Maniema. Dr John Kaozi va nous expliquer le pourquoi de la recrudescence de cette maladie au Maniema. Voilà tout pour les titres. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition parlée de la mi-journée. Au Nord Kivu, les Nations Unies ont célébré ce dimanche 29 mai la journée internationale des casques bleus. C'était une occasion pour les représentants du gouvernement congolais, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et autres cadres de la MONUSCO d'honorer le travail accompli par plus d'un million de casques bleus qui œuvrent pour la paix dans le monde. Un reportage de Bernardin Nyangi.
Le numéro 1 de la MONUSCO et le délégué du gouverneur militaire ont commencé par déposer des gerbes de fleurs en l'honneur de plus de 4000 membres du personnel civil, policiers et militaires qui ont perdu la vie au cours des 70 dernières années. Dans son message, la chef de la MONUSCO a reconnu qu'il y a encore beaucoup à faire pour restaurer la paix dans le monde, en particulier en RDC. Madame Ebintu Keita.
Cette semaine a été particulièrement éprouvante pour vous. Je suis fière d'avoir été à vos côtés ici à Goma pour traverser cette crise. Nous avons encore beaucoup à faire pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo.
Le commandant de la 34e région militaire, le général Ghislain Tshinkobo, au nom du gouverneur de la province, indique que les nouvelles menaces dont fait face la province du Nord Kivu requièrent le renforcement de l'appui des Nations Unies.
Un grand travail a déjà été abattu par ces valeureux soldats de la paix. Cependant, ils devront être plus déterminés à travailler aux côtés des FRDC car les défis restent énormes au regard des groupes armés encore actifs.
Notons que le thème pour cette année est « Ensemble pour la paix », le partenariat clé du progrès, alors qu'au niveau national, en RDC, c'est « Population paix, progrès et importance du partenariat ». Un défilé des différentes unités de la force de la MONUSCO a clôturé cette cérémonie. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
À propos, la police nationale congolaise PNC reçoit un soutien considérable de la police de la MONUSCO dans le cadre de protection des personnes et de leurs biens. C'est le colonel Pirou Mwanampu, tout porte-parole de la police nationale congolaise, qui l'a dit lors de son intervention dans le magazine Okapi Service de Radio Kapi. Une collaboration qui permet à la PNC de dupliquer les actions de la sécurisation de la MONUSCO dans les localités où celle-ci n'est pas représentée. On écoute le colonel Piero Mwanamputu, porte-parole de la PNC, dans cet extrait choisi par Piero Elamé.
Nous avons premièrement l'appui de la police MONUSCO en termes de patrouilles mixtes que nous sommes en train de faire dans le cadre, n'est-ce pas, la sécurisation des personnes et de leurs biens, la protection des personnes et de leurs biens. Au niveau de l'Est, savez-vous qu'il y a de camps de déplacés internes. Il y a des patrouilles qui ont été effectuées avec la MONUSCO. Il y a les violences basées sur le genre, le monitoring qui a été fait par la MONUSCO, notre collaboration aussi. Et vous savez qu'au niveau de l'Est, il a été mis en place une stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité que nous avons appelée SOLI, une police communautaire qui a été mise en place par nos amis de la MONUSCO, où le commandant de police travaille en collaboration avec le chef de quartier dans la gestion sécuritaire de l'espace. Là où ils sont, c'est que nous avons ensemble avec eux, nous profitons de la colocation pour que nous puissions dupliquer cela ailleurs, là où ils ne sont pas.
En rapport avec les attaques du M23 au Nord Kivu, le bloc patriotique politique crédible du peuple, un cartel des partis politiques, des organisations de la société civile et diverses personnalités propose la réduction du train de vie des institutions de la République pour renforcer la logistique des FARDC qui sont sur les champs de bataille. Dans une déclaration à la presse hier vendredi à Kinshasa, le porte-parole de cette plateforme demande aux Congolais de se mobiliser tel un seul homme et de collaborer avec les FARDC pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de énième agression par le Rwanda. Les propos de Augustin Bisimois ont été recueillis par Philbert Balolagué.
Au gouvernement provincial, sous l'impulsion du gouvernement central, d'organiser dans un bref délai, sur l'ensemble du territoire national, une grande marche de mobilisation populaire, de solidarité à nos FARDC, des protestations et des mises en garde contre le Rwanda et ses alliés, de mettre les moyens conséquents à la disposition de l'armée et de réduire les trains de vie des institutions afin de renforcer la logistique et la motivation de nos FARDC engagés au front de cette nouvelle agression confirmée. À la population congolaise de ne pas céder à la manipulation et de rester vigilante et mobilisée comme un seul homme dans l'unité, en collaboration avec notre armée pendant cette période de la énième provocation rwandaise.
À Beni, le bilan des récentes attaques de l'ADF à Beoumanyanga s'est alourdi l'après-midi de ce samedi. Selon la société civile du secteur de Benimbao, 6 autres corps ont été visibles. Ceux-ci viennent s'ajouter aux 21 personnes mortes retrouvées le matin, ce qui fait actuellement un total de 27 personnes tuées. Un bilan toujours provisoire étant donné que plusieurs civils restent jusque-là sans trace et surtout que l'ennemi rôde encore dans cette zone selon la même source. Et pour l'instant, la situation y reste très confuse. Georges Kivaya, président de cette structure citoyenne du secteur de Benimbao, tout en saluant l'intervention de l'armée pour limiter les dégâts, il lui demande de fournir plus d'efforts dans la sécurisation de cette partie étant donné qu'elle reste la seule où la population s'est concentrée et qui ravitaille la commune rurale d'Oichambao et environ en denrées alimentaires. Dans les territoires de Lubero, pendant ces temps, un policier commis à la garde du poste de police de Luotu a été blessé à l'arme blanche par des inciviques dans la nuit de samedi à ce dimanche. Le fait s'est passé dans le groupement Bouyora en chefferie des Bachoa. Des sources locales rapportent que le fait s'est passé autour de 23h locales lorsque les inciviques ont tenté sans succès de ravir l'arme à la victime. Cette dernière a crépité quelques coups de balle pour se défendre. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur de Lubero qui confirme la nouvelle, parle des miliciens Mai Mai dont leur groupe d'appartenance n'est pas encore identifié. Il appelle la population à s'impliquer dans la sécurisation de cette entité en dénonçant tout suspect. Bientôt, l'aéroport de Bounia en Ituri fera peau neuve. C'est grâce au soutien du gouvernement central qui vient de disponibiliser des fonds pour ce toilettage. Parmi les travaux prévus, l'allongement de l'actuelle piste d'atterrissage de 650 mètres, ce qui permettra à cet aéroport national, vieux de 50 ans, de mieux faire face au trafic aérien chaque jour croissant. Vendredi dernier, le gouverneur de province a visité cette installation aéroportuaire en compagnie de l'entreprise qui va exécuter le travaux. Reportage Martial Kizabiamongo.
Situé au quartier Bankoko, dans la commune de Mbounia, l'aéroport national de Mbounia, appelé Murongo, fait partie des services qui contribuent non seulement aux recettes des trésors publics, mais aussi à relier la province de l'Ituri au reste de la République démocratique du Congo. À ce jour, de gros avions ne peuvent toujours pas atterrir à l'aéroport de Mbounia du fait de l'état de sa piste. Pour les responsables de la régie des voies aériennes RVA à Mbounia, si cette piste est opérationnelle aujourd'hui, c'est grâce à la MONUSCO qui l'entretient, ce qui permet ainsi aux avions de la mission onusienne ainsi qu'à ceux des compagnies aériennes privées et publiques de maintenir leur vol de et vers l'Ituri. Le gouvernement congolais vient de disponibiliser des fonds pour la réhabilitation réhabilitation de cet aéroport. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Loboya Kachama, qui l'a visité vendredi avec l'entreprise qui va exécuter les travaux, indique que la piste d'atterrissage sera rallongée de 1850 mètres et élargie à 45 mètres contre 30 actuellement. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre chose au Kasaï oriental, inauguration ce samedi à Mbujimayi par le gouverneur des provinces intérimaires de l'usine de fabrication locale de jus conditionné dans les bouteilles en plastique de 300 ml et 500 ml. C'est l'entreprise Poto située dans la commune de La Mouya qui a lancé la production locale de 4 saveurs en jus en plastique. Bien que le prix de la bouteille est encore le même que celui se trouvant sur le marché, le chef de production de cette nouvelle usine affirme que la fabrication locale de jus vient résoudre le problème d'importation de ces boissons sucrées. Quelques consommateurs apprécient le goût du jus produit localement. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les jus conditionnés dans les bouteilles en plastique sont désormais produits en Mbujimayi. Une première quantité de ces jus a été lancée ce samedi sur le marché. Ingénieur Ravi affirme que l'entreprise Poto est capable de produire une grande quantité de ces jus, mais attend que la population soutienne cette action.
Produire une petite quantité, si ça passe les 7 ans, là, on avance encore pour produire.
Dorcas Mouadi, une consommatrice, apprécie le goût de ces jus fabriqués en Mbujimayi.
C'est très bon. D'autres jus, quand on prend là, c'est un peu amer à la fin. Mais ça, c'est vraiment bon.
L'entreprise a annoncé la fabrication de 4 saveurs de jus. En ce jour de l'inauguration, le jus présenté avait la couleur orange. Explication de Berthe Mputu, chef de l'entreprise Poto.
On ne peut pas faire tous les 4 en même temps. Si on prépare une saveur, il faut laver la cuve avant de faire d'autres saveurs.
Malgré les efforts fournis, l'entreprise Poto reste confrontée aux problèmes pouvant perturber son bon fonctionnement. Ingénieur Ravi.
On a fait les forages pour nous.
Tout en saluant l'initiative, le gouverneur de province intérimaire a exhorté les services de l'État à accompagner l'entreprise Poto.
J'exhorte les différents services de l'État à œuvrer de manière à garantir un accompagnement meilleur à cette nouvelle entreprise qui vient résoudre une des questions épineuses de la province.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans le Nord Kivu, les gestionnaires des institutions financières de microfinance Ecopec, fonctionnant à Butembo et ses environs, sont en régression ces 10 dernières années à la suite de l'insécurité. Le constat a été fait par les gestionnaires de ces institutions ce samedi à Butembo. C'était à l'issue d'une formation de 3 jours sur la gouvernance et la gestion des risques dans le cadre de la résilience. Alfred Kamate, président de la plateforme des institutions de microfinance IMF Ecopec, dans la région, invite les gouvernements congolais à fournir plus d'efforts afin de restaurer la paix à l'est du pays pour permettre à ces institutions de reprendre leur élan. Alfred Kamate s'est confié au micro de Florida Kahambo.
Il y a vraiment régression parce que on ne peut pas aller commencer une institution financière dans une zone de trouble. C'est vraiment difficile parce que le risque, il est très grand. Vous voyez, il y a beaucoup de braquages, il y a des coupeurs de route, des maïmaïs. Et là, les institutions de microfinance, les institutions financières ont tendance à rester seulement dans les grandes agglomérations, dans les villes et ne rentrent pas dans le rural. Alors que notre cible, c'est plus les gagnes petits et qui s'étendent dans le périurbain et dans les milieux ruraux. Tout ce que nous devons donner comme message au gouvernement, c'est de rétablir la paix pour que nos membres et nos clients regagnent leur milieu naturel, qu'ils produisent dans leurs champs et ça va permettre à notre économie de se relever. Et aussi à la Banque centrale qui est notre régulateur, il faudrait que la Banque centrale soit à mesure de venir cerner et de percer correctement tout ce qui est en train de se tramer autour de nos institutions pour que la réglementation aille aussi dans le même sens pour encadrer nos activités.
Au Kwilu, un climat malsain règne à l'hôpital général de référence de Kikwit 1 dans la zone de santé de Kikwit Nord. À la base, plus de 300 agents affectés régulièrement à cet hôpital sont écartés de la liste déclarative des agents de la dite institution par les chefs de division provinciale de la santé, Dr Jean-Pierre Bassaki. Ces agents lésés ont adressé un mémorandum au chef de l'État sollicitant son implication personnelle afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Pour le docteur Jean-Pierre Bassaki, sa décision est prise dans le but de réduire les effectifs pléthoriques dans cet hôpital pour mettre en application le projet du programme multisectoriel nutrition et santé qui va prendre en charge les enfants malnutris pendant 10 ans. Irène Boma.
Parmi ces agents de l'hôpital général de référence de Kikwit 1 qui sont concernés par cette décision du chef de la division provinciale de la santé du Kwilu, l'on signale entre autres les médecins, les infirmiers, les techniciens des laboratoires et autres. Dans leur mémorandum, ils qualifient cette décision du docteur Jean-Pierre Bassa qui est unilatérale et d'irrégulière. Tout en exigeant son départ, ils demandent au chef de l'État de les rétablir dans leurs droits.
Nous demandons le départ immédiat du chef de division provinciale de la santé du Kwilu et du comité de gestion de l'hôpital général de référence de Kikwit Nord, que nous soyons rétablis dans nos droits. Sans cela, nous nous réservons le droit de sceller les portes de l'hôpital.
Contacté, docteur Jean-Pierre Bassa qui donne la raison de sa décision.
Ce que j'ai fait, c'est pour sauver un projet signé avec la Banque mondiale. C'est un projet, programme multisectoriel, nutrition et santé. Pour mettre en application ce projet, il faut être en ordre par rapport aux ressources humaines. Il y a le volet pléthore. J'ai séparé ce qui vont rester pour le projet et ceux qui sont en instance d'affectation. Ils ne sont jamais licenciés. Je les ai mis toujours à Kikwit en instance d'une prochaine affectation.
Signalons que ces agents en colère ont manifesté mercredi dernier devant la mairie de Kikwit pour faire entendre leur voix. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'ancien président de Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho, est décédé le samedi 28 mai au soir, à l'âge de 80 ans, dans un hôpital à Lisbonne, de suite d'une longue maladie, a annoncé sa famille aux médias portugais. Evaristo Carvalho avait été président de ce petit archipel africain lusophone d'Afrique centrale entre 2016 et 2021, précise l'agence France-Presse. L'ancien vice-président nigérian et opposant de longue date Atiku Abubakar a été désigné samedi candidat de l'opposition pour les élections présidentielles de l'an prochain à l'issue d'une primaire de son parti démocratique populaire. Atiku Abubakar, 75 ans, un musulman du nord du pays, tentera pour la sixième fois de se faire élire président du pays le plus peuplé d'Afrique.
L'invité.
La RDC est en épidémie de poliomyélite depuis l'année 2017. Depuis l'année 2021, le pays a notifié 76 cas de polio, dont 61 cas dans la province du Maniema. Ainsi, la province du Maniema est l'épicentre de l'épidémie de la polio actuellement en RDC. Le jeudi 26 mai dernier, l'autorité provinciale a lancé la campagne de riposte contre la poliomyélite dans la province du Maniema. Nous recevons dans ce studio le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, PEV Maniema. Docteur John Karozi nous explique le pourquoi de la recrudescence de cette maladie au Maniema. Il répond aux questions de Florence Kizalunga.
Docteur John Karozi Desmet, bonjour.
Bonjour madame journaliste.
Pourquoi il y a recrudescence des cas de poliomyélite dans la province du Maniema?
Merci beaucoup pour la question. La province du Maniema a notifié un cas de polio par la zone de santé de Kailo, dans l'aire de santé de Lubao, le village Muliampemba. Et il faut dire que ce village a dépassé dans le sens que c'est un village qui a connu des inondations avec le déplacement de la population vers la forêt, ce qui a perturbé également les activités du PEV de routine avec faible couverture vaccinale qui a expliqué la survenue de ce cas-là de polio.
Comment expliquer que la province du Maniema soit l'épicentre de cette maladie en RDC?
Oui, l'épicentre parce que le cas a été notifié dans la province du Maniema, mais aussi il y a eu des problèmes dans la mise en œuvre des activités parce que comme c'est une urgence, la riposte devrait être rapidement organisée. Mais il s'est fait que la non-disponibilité des vaccins que nous avons voulu utiliser pour riposter contre cette campagne, les vaccins n'étaient pas disponibles, ce qui fait que les partenaires aussi n'ont pas su comment appuyer à temps cette riposte. Mais aussi nous avons un problème. D'autant plus que la population, avec cette infodémie autour de la vaccination et surtout autour du vaccin contre la COVID-19, où les parents sont devenus sceptiques à la vaccination, ça fait de sorte que nous avons actuellement beaucoup d'enfants non ou insuffisamment vaccinés et qui maintient maintenant la province comme épicentre de la maladie. D'autant plus que c'est à partir de notre province qu'il y a d'autres provinces qui ont été contaminées.
Maintenant, qu'est-ce que la coordination fait pour renverser la tendance?
Pour renverser la tendance, nous avons la riposte qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province représenté. Et cette riposte-là va bien sûr nous aider à atteindre tous les enfants de 0 à 59 mois à travers la stratégie porte-à-porte. Nous avons également les renforcements du PEF de routine, mais aussi la surveillance épidémiologique.
Chaque mois, et c'est là chaque année, vous organisez des campagnes de vaccination. Quelle sera la particularité de cette campagne que vous lancez aujourd'hui?
Il faut dire que les campagnes que nous sommes en train d'organiser ne sont pas seulement des campagnes pour lutter contre la polio. Parce qu'il y a des campagnes qui sont organisées pour lutter contre la rougeole. Ce sont des campagnes qui sont différentes. Mais pour ce qui concerne la campagne de lutte contre la poliomyélite pour la province, cette fois-ci, c'est une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la riposte. Donc ce n'est pas une campagne planifiée comme on a toujours dit qu'après un certain nombre d'années, il faudrait procéder aux activités de vaccination supplémentaires, mais cette fois-ci, c'est une campagne de riposte qui s'inscrit dans la logique de l'urgence. En mesurant également les appuis par rapport aux appuis antérieurs, on est sûr que les moyens qui ont été mis à disposition permettront à ce que les activités soient menées de façon normale pour nous permettre d'atteindre les résultats attendus. C'est qu'en plus d'un appui financier, nous avons également un appui technique des consultants de l'OMS et de l'UNICEF pour renforcer la campagne de vaccination. Également, nous avons l'appui du niveau central parce qu'il y a des superviseurs centraux qui sont arrivés en province juste pour permettre à ce que les activités puissent se dérouler dans des conditions requises.
CEO, vous avez parlé de l'infodémie autour du vaccin. Avez-vous réussi à sensibiliser la communauté pour arriver à comprendre les bien fondés de la vaccination?
Effectivement, oui. Il y a des équipes qui sont descendues dans les ménages pour aller informer les parents que la vaccination qui va se passer, c'est une vaccination contre la poliomyélite. En fait, qu'il faut faire la part des choses avec la vaccination contre la COVID-19.
Et pour réussir cette activité, quelle serait la part des uns et des autres?
Pour les équipes porte-à-porte, les responsabilités, c'est pouvoir arriver dans tous les ménages. Pour ce qui concerne les superviseurs, ils ont leur charge de pouvoir assurer le suivi dans le cadre de la supervision des activités. Et pour ce qui concerne les autorités politico-administratives, c'est de voir comment elles vont s'impliquer pour la gestion des cas de résistance et des refus qu'on va observer dans les différents villages. Essayer de convaincre les personnes qui restent encore réfractaires à la vaccination pour adhérer à faire vacciner leurs enfants. Et je pense, en arrivant à convaincre les parents, nous allons atteindre une couverture vaccinale qui sera à 100%, ou soit au moins 95%, et cette couverture vaccinale qui sera immunitaire pour permettre à ce que nous puissions booster dehors cette épidémie de polio dans notre province.
Docteur John Kauzi, merci pour votre disponibilité.
Merci madame.
C'est la fin de notre journal Parler de la mi-journée, coordonné et supervisé par Pierrot Elameji et Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.